Le théâtre La Passerelle accueille une nouvelle exposition photographique dans son espace L'Entresort. Depuis le 9 janvier 2025, c'est la série photographique Le Chant du Cygne d'Andrea Olga Mantovani qui est visible. Fruit de près d'un an de travail entre le théâtre La Passerelle et Andrea, des vidéos descriptives, accessibles en langue des signes française, sont proposées pour accompagner les photographies. Une interprète en langue des signes était également présente lors du vernissage. À travers le chant du cygne, les visiteurs sont invités à se plonger dans un univers poétique et mystérieux à l'image de la forêt de Białowieża, l'objet de l'exposition. Białowieża, ce n'est pas n'importe quelle forêt d'Europe de l'Est, c'est la dernière forêt naturelle de plaine d'Europe située en Pologne, âgée de 10 000 ans et bien évidemment riche d'histoire. Mais entre 2016 et 2018, elle est sujet à une importante déforestation. Le prétexte de ces coupes intensives étant la propagation d'un insecte, le scolyte de l'épicéa, menaçant l'ensemble du territoire et des forêts. Les réactions furent vives et la forêt de Białowieża est alors devenue le théâtre d'un des conflits environnementaux les plus importants en Europe, avec de nombreux procès entre activistes et institutions. Dans un entretien, quelques minutes avant le vernissage, Andrea Olga Mantovani nous expliquait toute l'histoire autour de cette exposition. Alors Andrea Olga Mantovani, bonjour.
Bonjour, enchantée.
On est ensemble quelques minutes avant le vernissage de ton exposition qui s'appelle Le Chant du Cygne au théâtre La Passerelle. Je vais commencer par la question la plus évidente. Le titre de cette exposition, c'est Le Chant du Cygne. Est-ce qu'il y a une raison à ce choix? Je pense qu'on va pouvoir développer un peu plus tout le contexte, mais est-ce qu'il y a déjà quelques petits indices?
Alors oui, un indice dans le titre « Le chant du cygne ». Le chant du cygne, en fait, c'est la dernière œuvre d'un artiste et sa plus belle. Et ça fait aussi référence au chant du cygne, au cygne lorsqu'il meurt. Il y a apparemment un mythe où il chante d'une manière magique et qui annonce sa mort. Voilà. Et c'est le titre que j'ai trouvé à ma série qui se déroule dans la forêt de Białowieża, en Pologne, dans la dernière forêt primaire de plaine d'Europe, où en 2017, elle a pu disparaître, elle a failli disparaître, dû au changement climatique et à une déforestation massive du gouvernement polonais. Donc c'était un peu un chant du cygne, peut-être un dernier chant d'une œuvre de la nature. Et voilà, et c'est l'histoire que je raconte ce soir, où j'ai passé 8 mois dans cette forêt, à vivre auprès des activistes, mais pas seulement, à vivre auprès des forestiers, à vivre au milieu de cette forêt toute seule et à suivre ce combat pour la protection de cette forêt que je raconte dans l'univers du conte.
Il y a beaucoup d'éléments de réponse là, dans tout ce que tu viens de nous partager, notamment le fait que tu as passé du temps aussi bien auprès des activistes que des gardes forestiers. Est-ce que ça t'a permis de voir différents aspects du combat justement ?
Oui, ce qui était vraiment intéressant de se rendre compte en étant à la proximité de deux milieux, c'était que, en apparence, tous les opposaient et dans le fond, tous les unissaient. C'était la forêt. Les jeunes forestiers sont autant attachés à la forêt que les jeunes activistes. Alors derrière les attributs d'apparence des habits ou encore de nos revendications politiques ou autres, il y avait vraiment en profondeur dans leurs racines même, on va dire, cette même attachement. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, ça cassait un peu les idées qu'on pouvait avoir. Et c'est la forêt qui est au centre de tout. Dans cette série, on retrouve la forêt au final tout le temps. On était là-bas pour elle.
Alors, on est entré dans le vif du sujet très vite, finalement. Mais ce qu'on n'a pas précisé ensemble, c'est que c'est une exposition photographique. C'est un travail, tu viens de le dire, que tu as effectué sur 8 mois, c'est ça ?
Oui, effectivement. En fait, j'étais partie pour 2 semaines au départ pour faire tout simplement un reportage plus presse, on va dire, sur la déforestation qui était en train de se passer dans cette forêt. Et puis, 2 semaines n'étaient absolument pas suffisantes pour embrasser tout ce que j'avais, je percevais à expérimenter dans la forêt de Białowieża. Et donc, j'ai décidé de rester. Et en fait, les 2 semaines se sont transformées en 1 mois, puis s'est transformé en 2 mois et en 3 mois. Et j'ai pas réussi à partir. Voilà, il faut savoir que ces activistes, l'action qu'ils ont menée, ça a été pour porter un dossier devant la Commission européenne. Et la Commission européenne a trouvé le dossier trop important pour le mener devant la Cour de justice européenne. Et j'ai attendu dans cette forêt les résultats du jugement de la Pologne devant la Cour de justice européenne.
D'un reportage qui était censé simplement dresser un portrait peut-être un peu plus léger, c'est devenu un suivi peut-être assez intense finalement.
Bah, c'est devenu même, je dirais, une entité, une présence. En fait, là, dans ce cas-là, ça questionne aussi notre rapport au vivant. En fait, la forêt est devenue une personne en tant que telle à protéger. Et c'est comme si on va prendre soin de quelqu'un. On ne peut pas partir tant que savoir qu'il n'est pas guéri ou que ce n'est pas OK pour lui. C'était vraiment cette sensation, je ne pouvais pas quitter la forêt tant que je ne savais pas que c'était OK pour elle et qu'elle était protégée à nouveau. Il faut savoir que les activistes ont gagné devant la Cour de justice européenne. La Pologne a été astreinte à 100 000 euros d'amende par jour si elle continuait de couper la forêt de Białowieża. 2 mois après le jugement, elle a arrêté, les coupes ont arrêté dans la forêt. Et voilà, et j'ai pu faire mes valises et rentrer en France avant d'y retourner de manière annuelle, mais pas pour les mêmes raisons.
Donc cette exposition, c'est un retour finalement aussi bien sur ton expérience en immersion dans ce combat-là qu'un regard sur ce combat qui s'est fini de manière positive.
C'est vraiment ça qui a été vraiment aussi très intéressant. Ça a été le premier combat d'activistes en Europe de l'Est, il faut savoir, qui a eu 70 procès qui ont eu lieu, qui ont été intentés du gouvernement polonais contre les activistes. Ils ont gagné tous les procès. Et ça a été aussi la preuve qu'avec peu de choses, on fait beaucoup de choses. Ce sont des activistes apolitiques, c'est des personnes comme toi et moi qui étaient ces week-ends-là dans la forêt de Białowieża, ont vu au fur et à mesure des camions rentrer et des coupes massives et se sont opposés à ça. Donc il n'y a pas derrière de parti politique, d'association, et c'était vraiment une impulsion du cœur. Et ils ont fait un premier sitting et ils ont eu 2 manières d'agir. La première manière, c'était de faire des relevés GPS tous les jours pour voir de quelle manière c'était grignoté sur la forêt, pouvoir faire des cartes et les coupler avec des cartes sur les zones de protection des oiseaux ou zones de protection des espèces où on pouvait de fait avoir la preuve que les coupes portaient atteinte aux espèces vivantes, la faune ou la flore. Et ensuite, ils avaient un deuxième type d'action qui était de faire des zones de blocage. Donc une autre type d'action plus offensif, un côté plus ingénieur et un côté plus physique. Et au bout de 8 mois, ils ont constitué ce dossier avec vraiment, ils sont devenus experts eux-mêmes alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils ont réussi. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. Moi, ça a aussi changé clairement. J'ai jamais eu quelque chose qui m'a donné autant d'espoir et autant d'énergie dans ma vie.
Quand on t'écoute et quand on regarde un peu ton travail, on entend que c'est un sujet important pour toi, aussi bien l'investissement au niveau des sujets écologiques que peut-être au niveau social aussi. Est-ce que la photographie, c'est un moyen de militer finalement pour ces sujets-là ?
Ah bah oui, totalement, oui. En fait, là-bas, je me suis parfois reprochée de ne pas être partie en mission avec les activistes, soit sur des zones de blocage ou de ne pas aider au GPS, parce que j'étais de mon côté toujours en train de penser à la photo, à faire de la photographie, à documenter ça, trouver une manière aussi de créer un récit. Et au bout d'un moment, je me suis un peu étendue et j'ai arrêté de me culpabiliser en me disant que c'était ma forme à moi d'être militante et que je ne suis pas obligée de passer par la voie de la banderole ou la voie du blocage. Je trouve à chacun sa manière de trouver sa voix et son langage. Et moi, c'est vraiment mon langage. Et c'est comme ça aussi que je sens que ça peut véhiculer dans le temps. Parce que là, on est 5 ans plus tard et ça se présente à Gap. On peut parler de cette forêt, la plus ancienne d'Europe. On ne la connaît pas forcément parce que souvent, on connaît peu les espaces en Europe de l'Est. Ça inspire pour nos forêts aussi. Ça inspire d'aller découvrir cette forêt. Et donc ça, c'est militant.
Est-ce qu'il y a une idée que tu aurais derrière la tête peut-être de créer une prise de conscience chez les personnes qui vont observer ces photographies ? Est-ce que c'est simplement documenter ce combat ? Est-ce que c'est un peu tout ça en même temps ?
Je pense qu'il y a un peu de tout ça en même temps. Il y a la valeur du document qui est important parce qu'il ne faut pas oublier les combats menés. Ce qu'on a aujourd'hui est souvent le fruit de combats. Et c'est jamais fini. La démocratie est fragile, comme on le voit. Nos droits sont fragiles. Il faut accepter que notre expérience sur Terre n'est pas faite que de sommeil et de douceur, même si on aimerait, voilà. Et on n'est pas pour autant obligé d'être tout le temps en combat, mais il est important d'être vigilant. C'est le propre de l'expérience humaine, je pense. Ensuite, la partie document est importante parce que ça donne de la force quand on voit les gens qui ont combattu, qui ont fonctionné pour nos propres combats aujourd'hui. Donc se dire, ah, ok, ça aide à ça, je trouve, à faire des points d'ancrage positifs. Et ensuite, ça éveille la curiosité. La curiosité, c'est une énorme arme. Donc, de se dire, tiens, c'est quoi cette forêt ? Moi, j'ai beaucoup de personnes qui, par la suite, m'ont contacté pour aller dans la forêt de Biao-Vieja. Aujourd'hui, on part souvent très loin à l'étranger pour vivre du sauvage, du wild. Et je le comprends, il y a eu tout ce mouvement vers l'Amérique du Sud, la Patagonie, ou encore plein d'autres univers qui, bien sûr, évidemment, j'affectionne et je suis bien curieuse. Mais voilà, j'ai aussi ce propos de dire à 3 heures, en Europe, on a la forêt la plus sauvage d'Europe. On a la population de bisons sauvages la plus importante. On a le loup, on a le lynx, on a l'ensemble des mammifères, sauf l'ours. On a une faune et une flore incroyables. On n'a pas besoin d'aller loin. Découvrons notre territoire qu'est l'Europe. Voilà.
T'as un regard qui s'illumine quand tu parles de cette forêt. Et tout à l'heure, tu m'évoquais que tu avais eu envie de le retranscrire sous forme de conte. Pourquoi, en fait, choisir cet univers-là du conte ?
Alors, elle ne m'est pas venue tout de suite. Je dirais que c'est au bout de 2 mois, dans la forêt de Biao-Vieja, où je me suis vraiment questionnée sur quel récit... Moi, mon imaginaire dans la forêt de Biao-Vieja était décuplé de par la richesse de cette forêt. J'avais vraiment l'impression que d'un coup allait sortir quelqu'un un petit lutin de derrière l'arbre. Il y avait vraiment quelque chose. Voilà. Après, dans le temps, retranscrire ça en photographie, alors que je fais la photographie documentaire, plutôt très réelle, c'était complexe. Et puis, donc, j'ai laissé le temps agir. Je travaillais à l'argentique, donc je ne développais pas dans la forêt de Biao-Vieja, je produisais. Et puis, c'était lors de la première photo, la photo là avec les poings levés. Donc, c'est un activiste, si vous venez à l'exposition, vous verrez, qui rentre dans une souche et qui sort, qui a les 2 poings levés menottés. Et le rouge et le vert rappellent vraiment les codes du conte. Et là, on était sur une zone de blocage au petit matin. Et il y a beaucoup de mystère dans cette photo. Et quand j'ai développé cette photo, tout de suite m'est apparu cet univers-là. Et c'est... de toute façon, arrivé comme une évidence, parce que si je voulais faire voyager Biao-Vieja dans le temps, comme ici, il fallait dépasser la news, il fallait dépasser le moment de l'actualité qui était la déforestation. Les images, et on le sait, de déforestation, des énièmes déforestations ou des feux comme là actuellement à Los Angeles, n'ont plus d'emprise sur nous, de moins en moins. Pourquoi ? Parce que nous sommes saturés. On produit 99 milliards de photos sur Instagram par jour. C'est énorme. Donc, en fait, je voulais quelque chose d'intemporel, qui dépasse, qui fasse référence au passé des tsars de Russie, comme qui nous projette dans un temps futur ou imaginaire. En fait, un temps qui n'est pas là forcément, un temps qui est ailleurs. Et l'univers du conte m'a permis d'y répondre. Et ensuite, il y avait une dernière chose, c'était aussi de rendre au spectateur son imaginaire. Je pense que réellement, c'est quelque chose dont on doit être aussi vigilant aujourd'hui. Continuer de rêver, continuer de développer nos imaginaires. Et pour moi, le dispositif que j'ai mis en place laisse la place. Il n'y a pas de légende, je veux peu de narration sur les photos. Il y a des déguisements.
Ça y est, les personnes commencent à arriver au vernissage, donc je vais te libérer très vite. Mais avant ça, je voulais juste savoir une première chose. Est-ce que tu travaillais des mises en scène ? Est-ce que tu faisais des repérages ? Ou est-ce que c'était justement sur le vif, quelque chose qui te venait ? Comment est-ce que tu as travaillé ?
Alors oui, je travaille des mises en scène et des repérages. Pas pour toutes les photos, il y a des photographies qui sont sur le vif. Par exemple, Katia la princesse. On pourrait penser que c'est un repérage et un déguisement, c'est sur le vif. Donc il y a aussi cette ambiguïté, on ne s'y attend pas toujours. C'est vraiment une princesse qui est habillée comme ça dans la forêt. Voilà. D'autres, comme Mona, qui est au début, qu'on voit dans les marécages avec une robe verte de dos, pieds nus, c'est une mise en scène qu'on vit. Donc typiquement, nous sommes partis pister le loup en pleine nuit. Ça, on le faisait plusieurs fois. Et c'était tellement magique ce qu'on traversait. Et souvent, on traversait ces marécages qu'un jour, j'ai apporté cette robe dans mon sac. Je dis, mais là... Et voilà, donc il y a des moments où je vais aller tirer le réel. Mais après, il y a des installations beaucoup plus pensées, beaucoup plus qui vont moins dans le féerique, qui sont plus politiques, comme les palettes avec les fumigènes. Il faut savoir que l'ensemble du bois qui était coupé de la forêt de Biao-Vieja terminait en palettes sur le marché européen, terminait en grande surface en palettes. Et donc, la forêt la plus ancienne d'Europe terminait en palettes, parce que ce n'était pas du bois forcément de qualité. Et donc, pour parler de cette situation-là, de cette aberration-là, donc j'ai ramené 50 palettes sur une zone déforestée de la forêt de Biao-Vieja. J'ai commandé des fumigènes pour rappeler les symboles de la manifestation. Et j'ai allumé tout ça. Et j'en ai fait un peu une œuvre d'art éphémère dans le réel, même sur site, où j'ai laissé ces palettes avec les fumigènes aux harvesteurs, aux gens qui venaient couper le bois pour peut-être le signaler aussi et interroger. Avec un petit mot dessus.
Donc, tu as laissé cette œuvre aussi au regard de tous et toutes. Ma dernière question, c'était, est-ce que tu pourrais nous décrire et nous raconter un peu l'histoire aussi de ta photographie préférée dans cette série-là ?
C'est compliqué parce que chacune y a une histoire. Vraiment, c'est pas possible de choisir. J'en ai plusieurs des préférées. Je dirais la rivière, celle qui fait aussi, qui est aussi l'affiche. Qui est la rivière, c'est le bassin de peuplement de la forêt de Biaovieja, mais au-delà de ça, en fait, je l'ai prise très tôt le matin, à 5h du matin, et j'allais pour voir des bisons, j'allais faire un affût quand on va se cacher dans des cabanes, et je m'étais levée à 3h30, enfin, j'étais vraiment suquée à 4h30 sur le vélo, il fait froid, il faisait hyper froid, et je passe, et j'étais en retard pour les bisons, et je suis souvent en retard. Je me stressais avec mes bisons, et là, hop, je passe le pont, et je vois cette rivière avec cette brume, et c'est, elle m'a envoûtée, c'est magique, et je me dis, et là j'ai un choix cornélien à faire, c'est est-ce que je garde mon rendez-vous comme prévu, où j'étais partie pour ce point A, ou est-ce que je me laisse détourner, absorber parce que je suis en train de vivre, et je quitte l'objectif, mais je vis le moment. Parce que forcément, comme je travaille à la photographie argentique, il faut sortir le matériel, il faut prendre des mesures, et la brume part très vite, comme les bisons, donc il fallait choisir. Voilà, et donc du coup j'ai choisi de vivre le moment présent. Voilà, elle me rappelle souvent, en fait, aussi dans la vie, on part pour quelque chose et en chemin, on retrouve autre chose de plus beau qu'on n'avait pas prévu et qui répond peut-être encore plus à notre besoin, mais il faut se laisser traverser par ça, par cette expérience de la vie.
Bah, écoute, je vais te laisser là-dessus. Merci pour cette très belle conclusion.